Nous croyons que le Saint-Esprit vous visitera par ce message au travers de votre foi afin de produire en vous la transformation pour une vie chrétienne victorieuse et d'impact. Message délivré par le frère Jean-Eudes Auro, berger de la mission catholique d'évangélisation, lumière des nations, un apostolat de réveil spirituel, de restauration et de transformation des âmes. Que le Seigneur soit bon pour vous.
Seigneur, toute la gloire te revient. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps. Jésus, tu es la vraie source de guérison et de restauration. Nous prions que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Nous prions que ton esprit nous dirige et nous conduise. Père si grand, viens rendre nos paroles vivantes. Que l'esprit qui vivifie donne la vie à toutes les paroles qui vont sortir. Je veux m'offrir moi-même au Seigneur. Je veux m'abandonner au Seigneur, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur, Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle de la vie de mes frères et de mes sœurs. Et conduis-nous vers de vrais pâturages, Seigneur. Nous voulons nous abreuver à ta source. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais notre état. Ô Dieu si grand, excellent Père de grâce, prends le contrôle en ce matin et fais-nous plus que du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'espère qu'on a pu bien se reposer. J'espère qu'on s'est reposé aussi. Alors je suis content d'être là avec nous. Je salue tous nos frères qui sont en ligne. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que c'est assez difficile de suivre les retraites en ligne, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués, parce qu'on est toujours dans notre environnement de tous les jours. Mais c'est nous-mêmes qui devons créer notre environnement de retraite. Donc toi-même tu es retraitant, toi-même tu es organisateur, voilà, toi-même tu veilles sur toi-même. C'est très important parce que nous sommes là pour un objectif, pour un but. Alors si nous sommes là pour un objectif, pour un but, il est important de mettre tous les moyens pour atteindre l'objectif et pour atteindre le but pour lequel nous sommes là. C'est très important. Alors vous qui êtes en ligne, vous n'êtes pas épargnés. Ce qui est bien, c'est que l'espace-temps ne limite pas Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps ni l'espace parce que lui-même, il est le temps, lui-même, il est l'espace. Alors Dieu va également vous faire du bien. Jésus va aussi vous visiter, mais ça va dépendre de deux choses. Votre disponibilité et votre disposition. C'est surtout ça. Alors je prie que le Saint-Esprit vous aide à être connecté réellement à ce temps et non pas seulement au téléphone. Pour nous qui sommes en présentiel, c'est de même pour nous. Nous sommes là, mais nous pouvons ne pas être là. Parce que nous sommes toujours en contact avec notre quotidien qu'on a laissé, certains soucis qu'on a laissés. C'est pourquoi dans la démarche de la retraite, il y a l'esprit de retrait. Il ne faudrait pas que le retrait soit seulement physique. On quitte un point A à un point B. Mais le retrait est physique afin que il soit aussi psychologique. Il faut qu'on quitte notre environnement quotidien de manière psychologique. Il faut qu'on soit capable de se séparer de nos habitudes. Sinon, on risque de ne pas complètement vivre la retraite. Vous savez que le tout n'est pas d'avoir des objectifs. Sinon, un objectif peut juste rester un souhait, un vœu. Mais c'est d'être capable de se donner les moyens pour atteindre les objectifs qu'on a. Et comme nous sommes venus à une retraite, je ne pense pas que c'est pour le bon plaisir. Je ne pense pas que c'est pour... parce qu'on voulait un peu quitter Abidjan. Non. on a vu un besoin, on a senti un besoin et on s'est rendu compte que le ce pourquoi la retraite est organisée répond à notre besoin. Alors il est important qu'on soit là. Alors si on est là, il faut se donner les moyens. Et nous savons que dans notre ère là, l'un des grands défis psychologiques, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable pour moi n'est plus à un niveau physique, c'est psychologique. Bientôt ça va devenir spirituel. Parce que tu peux retrouver des personnes en prière qui disent à Jésus, attends, il y a avec moi dans mon appel. La personne est en pleine adoration, comme on l'appelle, de constitution en adoration. En pleine messe, je suis à la messe. Ou bien SMS, je suis à la messe. Bon, est-ce que c'était utile? Nous sommes d'accord que quand par exemple tu es en train de parler avec une personne et quelqu'un d'autre vient te parler ou bien une situation te distrait, ça coupe la connexion dans la communication. Ouais, d'accord? Donc pendant que tu es en train de prier, même les une seconde que tu prends pour répondre à un message, tu t'es déconnecté. Donc je veux... Je crois en la maturité de tout le monde. Je veux compter aussi sur notre participation. Donc je vais demander à tous les retraitants déjà d'être dans cette zone-là, devant. Tous ceux qui sont retraitants, de venir devant. Voilà, ça c'est la première chose que je demande. Tous les retraitants, on va s'asseoir de sorte qu'il n'y ait pas de trou. C'est que ça c'est un grand exercice parce que il y a des personnes qui se sentent mieux derrière. C'est pas grave, aujourd'hui, viens devant. Hein? On va avancer. T'as dit, monsieur, même qui sont l'autre côté carrément, ce sont des retraitants, venez carrément dans la première rangée. Ensuite, nos téléphones. Le piège que le diable peut nous donner, c'est que à ta pause d'un exercice, tu vas vouloir consulter un SMS, un WhatsApp, un statut. C'est dangereux, il faut fermer ton téléphone, tu es à la retraite. Fait toi, mais ça doit te faire bizarre que tu as dit que tu viens à la retraite et puis on te voit faire statut, on te voit poser par WhatsApp. C'est pas bizarre. C'est que tu n'es pas. Tu es venu à la retraite, mais tu n'es pas à la retraite. Donc on va fermer nos téléphones. Normalement, quand on fait la retraite, on récupère les téléphones. Mais, personnellement, je me suis dit, mais je crois que ceux qui viennent à la retraite sont matures. Ils savent pourquoi ils viennent. Donc, il faut qu'on engage leur responsabilité. Les soucis de la vie, les intempéries de la vie, notre quotidien, tu vois, beau répondre à tous les appels, tu vas repartir à Abidjan, ça t'attend encore, c'est pas résolu. Allez, d'accord, non? Donc, si tu ne réponds pas, ça t'attend aussi. Donc, mieux vaut ne pas répondre pour repartir, remodeler. J'aime cette pensée de Saint Antoine de Padoue qui était un jour avec les novices du couvent où il était en Italie et ils avaient des bienfaiteurs. Alors, il était l'heure des vêpres le soir vers 17h, 18h et il y a des novices qui courent tout apeurés qui viennent lui dire, maître, il y a le champ de blé des plus grands bienfaiteurs du couvent qui est en train de brûler. Et il est en train de se démerder pour éteindre le feu. Il est seul. Il faut qu'on parte l'aider. Puisque c'est notre bienfaiteur. Saint Antoine leur a dit, c'est l'heure de la prière. On ne peut pas aller éteindre le feu de quelqu'un pendant qu'il y a prière. Même si c'est lui qui nous aide dans notre couvent. Les gens ont vu, ah, mais ça c'est quel gaza. Il est méchant. Ou bien, notre bienfaiteur, son chambre, il dit, on a allé prier. Et ils sont allés faire les vêpres. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, une pluie est tombée juste sur le champ pour éteindre le feu. Alléluia. Bien-aimés, il y a des situations que nous voulons contrôler et Dieu n'agit jamais parce que nous-mêmes, on veut contrôler. Qu'est-ce qui prouve que si eux, ils partaient, ils pouvaient éteindre le feu? Qu'est-ce qui prouve que l'un d'eux-mêmes ne pouvait pas être ravagé par le feu? Puisque si c'est un incendie, il y a le risque, n'ayant pas même les pompiers, même quand ils éteignent le feu, souvent, ils sont atteints par le feu. Eux qui ont l'expérience par la formation qu'ils ont de faire cela. Il faut qu'on arrive à compter sur Dieu totalement. Il y a un homme de Dieu qui devait aller prêcher. Il est au Nigeria. Sa femme était gravement malade. Elle était à la porte de la mort et il devait aller prêcher en Europe. Il regarde sa femme, il regarde la mission et il dit, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je vais partir, tout comme fait, je ne suis pas médecin. Que je parte, que je reste. Si ma femme doit mourir, elle va mourir. Si elle doit vivre, elle va vivre. Dans mon cœur, il dit, ma blessure. Si c'est vous, en tant que la femme, comment vous allez réagir? Ah, c'est sûr que s'il fait ça, la prochaine retraite, il va venir. Mais il est parti à la mission. Et il dit que quand il est arrivé, quand il a pris la micro, il a dit à Jésus, j'ai laissé ma femme pour venir parce que je sais que tu es le médecin par excellence. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire la mission. Si tu le veux, fais pour moi. Si tu ne fais pas, je ne vais pas t'abandonner. Il dit, j'aime les gens qui prient comme ça, comme les amis de Daniel. Même si notre Dieu ne nous délivre pas du feu, on ne va pas adorer la statue. Aujourd'hui, notre temps est à l'épreuve des chrétiens comme ça. Il y a tellement de pression, tellement de mutations, tellement de difficultés. Et il a prêché, il a prêché. Quand la femme est sortie de la maladie, elle a écrit un livre. C'est Faith Oyedepo. Elle a écrit un livre sur ça. Et il a dit, quand il est revenu, il regarde sa femme qui était très maigre, qui était mourante à la porte de la mort. Il se demande si c'est elle, si c'est quelqu'un d'autre. Parce que Jésus a géré derrière lui. Alléluia. Mais et s'il restait? Bon, on ne sait pas. Mais ça pouvait arriver. Et puis même si elle était en train de mourir, il pourrait faire quoi? Rien. Alors j'utilise ces deux témoignages pour nous dire, laissons Abidjan quoi. On est venu en Abidjan, laissons Abidjan. Quand on suit le Seigneur jusqu'au bout, soyons confiants que s'il y a quelque chose, il va régler. Laissons nos téléphones. Éteignons nos téléphones. J'ai bien voulu qu'on récupère les téléphones, mais je veux cette journée engager votre responsabilité et puis observer. Tout compte fait, si les téléphones ne sont pas éteints, je saurai. Je saurai que vos téléphones ne sont pas éteints. Donc je compte sur nous tous. Alléluia. Alors, bonne arrivée au laboratoire du Saint-Esprit. C'est la chose que j'aime le plus faire au monde, parler des blessures intérieures, parce que c'est tout l'homme. C'est tout l'homme, c'est toute notre histoire, c'est tout ce qu'on peut être, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est congénital, quoi, à l'existence humaine. Voilà. Le thème de ce matin, c'est la réalité des blessures intérieures. Je crois que hier, le Seigneur nous a donné la grâce de décoller un temps soit un peu dans sa présence. Parce qu'on va beau avoir des techniques psychologiques, des techniques, je pourrais dire, de santé mentale. On pourrait tout pratiquer, tout faire. Mais la seule personne qui est capable de guérir et naître, c'est Jésus. C'est Jésus. Une fois, un docteur en psychologie, je pourrais dire, très réputé au niveau de l'université d'Abidjan, à la faculté de psychologie, au niveau du CIEPA, le centre de recherche de psychologie appliquée, c'est l'une des responsables, a reçu une personne en consultation. Pendant toute une année, elle a suivi l'enfant, elle l'a consulté et elle est arrivée à la conclusion que sa science est limitée. Elle a besoin de prière. L'enfant n'en peut rien faire pour lui. Jésus seul peut l'aider. Dans ce jour, quand elle m'a appelé, j'étais assis dans son bureau, puis elle parlait. Puis elle dit, mais ah, c'est compliqué. Parce que c'est mon mentor dans le domaine. Mais là où elle est arrivée, moi, j'ai vu son mentor. Parce qu'il y a une autre corde que peut-être elle n'a pas. Elle est chrétienne catholique. Donc elle a compris, elle a dit, berger, la psychologie ne peut rien faire. Il a besoin de prière. Et Dieu merci, Jésus qui est toujours bon, a pu restaurer la vie de l'enfant, a pu le guérir. C'est pour nous dire, il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Ou du moins l'agréable à utile, à ce qui est utile. Donc c'est bon. Tout ce qui peut être scientifique, tout ce qui peut être physique, tout ce qui peut être une aide qui va nous aider à traiter nos problèmes émotionnels, psychologiques. Mais il est important de venir s'abreuver à la source de la guérison. Dans le psaume 23, il dit, il restaure notre âme et il nous mène vers de vains pâturages. Voilà, moi qui suis en train de vous parler, moi aussi j'ai connu des blessures intérieures. Voilà, liées, tout à l'heure je vais expliquer, liées à ma naissance, liées à mon enfance, liées à un événement douloureux. Par exemple, ma deuxième petite sœur est décédée sur mes bras. On était assez proches. Et elle est morte sur mes bras. Ça crée des conséquences. Mais comment Jésus m'a guéri? Vous savez, moi, je n'ai jamais fait de retraite de guérison intérieure en tant que retraitant. Voilà. Et souvent, je me demande, mais qui m'a parlé de guérison intérieure? Parce que depuis 2012-2013, je prêche beaucoup ça. Quand j'étais avec les élèves tout le temps, toutes les retraites. Mais en 2009, j'étais dans ma discipline de prière. Chaque après-midi, je partais au Saint-Sacrement de 14h à 18h. Et c'est dans mon adoration au Saint-Sacrement, tout ce qui remplissait mon cœur, j'ai senti Jésus me dire, offre-le-moi. Et j'ai laissé Jésus toucher mon cœur. C'est pourquoi j'aime le Saint-Sacrement. C'est l'Eucharistie qui est vraiment source de guérison, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des frères évangéliques parmi nous? C'est important. Est-ce qu'il y en a? D'accord? Voilà. C'est important pour pouvoir l'aider. L'Eucharistie chez nous, c'est ce que chez vous, vous appelez la Sainte Cène. Moi, mais j'étais évangélique. Hein? Voilà. J'étais pentecôtiste international. C'est le nom. Voilà. J'ai fait aussi l'église de la prophétie. Donc, c'est ce que je vous appelais la Sainte Cène. Mais comme les doctrines sont différentes, les dévotions envers la chose sont différentes. Nous, chez nous, par exemple, on l'expose dans un objet qu'on appelle ostensoir, qui est juste un support. Beaucoup de chrétiens catholiques pensent que le Saint-Sacrement, c'est l'ostensoir. Non. Donc, quand ils vont, ils disent, ah, mais le Saint-Sacrement n'est pas là. Il est au tabernacle. Parce qu'ils n'ont pas vu l'ostensoir exposé. C'est juste le support pour mettre, comme c'est un pain, ça ne peut pas s'arrêter seul. Donc, on a un support pour mettre là-dedans. Donc, nous croyons que c'est la présence réelle de Jésus qui est là, qui est là-dedans. Et nous avons une dévotion particulière. Alors moi, dans ma prière, Jésus m'a guéri au Saint-Sacrement. Comment il m'a guéri? Il m'a ramené, parce que je lui en voulais. Je lui ai dit, mais mon gars, tu as pris ma petite soeur. Pourquoi elle n'a rien fait? Elle était si innocente. À 4 ans. Elle avait 4 ans. On était en 1996. Je sais que c'est dans le mois de septembre-octobre. Elle est morte il y a longtemps. Hein, donc. Je lui en voulais parce que je ne comprenais pas. Alors Jésus va m'expliquer. Il dit, tu vois, voici. Mais il m'a tellement expliqué des choses quand il s'est sorti. Il dit, ah, parce que souvent, beaucoup de blessures qu'on a, c'est beaucoup d'incompréhension. Des événements et des situations qu'on ne comprend pas. Par exemple, nos parents. On les en veut beaucoup parce qu'on ne les comprend pas. Mais si chacun va s'asseoir avec ses parents et parle avec eux de eux-mêmes leur histoire, quand on sort de là, on est guéri. On va comprendre que papa et maman ont fait ceci parce que. Des histoires avec même les parents, il va m'expliquer, tu vois, voilà, ce que tu penses, c'est pas ça. Voilà. Je dis, ah Jésus, merci. Et je sens sa présence m'envahir et je sens une décharge. C'est bizarre que je n'ai pas pleuré ce jour-là, mais j'ai été guéri. Donc, la guérison n'est pas liée à tes pleurs. Parce que souvent, des personnes sont guéries, mais le souvenir de leur histoire peut les faire pleurer et les plonger dans les émotions quand on en parle. Il faut le dire. Pas parce que quelqu'un pleure qu'il est guéri. C'est pourquoi aujourd'hui, on va travailler à ce que tu ne pleures pas assez, mais que tu sois guéri beaucoup. Alléluia. Mais guérir, mais pleurer, peut être un moyen de libération. C'est une thérapie naturelle. Donc s'il faut pleurer, il faut pleurer. Une chose est claire, c'est que, excusez-moi pour ce que je vais dire, personne n'est mieux que toi. Tu sais pourquoi? Parce que si nous tous on se retrouve ici, c'est que nous avons le même problème. Exemple, si tu as honte parce que tu as le sida et que tu vas à l'hôpital dans le coin où on soigne sida, c'est que sûrement tout ce que tu vois est un sida comme toi. Donc pourquoi tu as honte? Vous tous avez le même problème. Donc certains peuvent se sentir gênés d'exprimer, d'extérioriser certaines choses. Et voici une blessure, une barrière de limitation, une pensée limitative qu'on a mis dans le cœur des Africains. Garçon ne pleure pas. J'ai demandé un jour, garçon en béton, il n'a pas de cœur, il n'a pas de chair, c'est quitté où? Parce que quand l'enfant tombe, il pleure, non, garçon ne pleure pas. C'est écrit dans quelle convention universelle? Donc un homme pour lui pleurer, c'est signe de faiblesse. C'est ce qui fait que les hommes sont orgueilleux, ils sont dominateurs. Et certains ont du mal à s'excuser, à demander pardon, parce que l'Afrique, l'Africain leur a fait comprendre que c'est signe de faiblesse. C'est archi faux. Parce que en chaque homme, petit H, il y a une femme. En chaque femme, il y a un homme. Ça, au moins, on le sait, non? Oui, en chacun de nous, il y a une variante homme, une variante femme. Vous allez voir que certains hommes sont plus tendres que certaines femmes. Parce que leur quotient de femme a été plus nourri, développé. Ces personnes, vous allez remarquer qu'ils ont beaucoup marché ou bien vécu avec leur maman ou des sœurs. Donc, ils ont été instruits, nourris, alimentés par le quotient féminin. C'est beaucoup levé. Mais vous allez voir aussi, certaines femmes, ayant été dans une famille peut-être monoparentale, ont développé le quotient homme. Une femme qui éduque seule son enfant sera plus homme que femme. Pourquoi? Parce que inconsciemment, elle va vouloir compenser le déficit de l'autorité humaine. Donc elle est obligée de traiter son enfant comme un homme et en même temps comme une femme. Et elle s'est dit, comme il n'y a pas papa, il faut que moi je sois un père pour mon enfant. Donc on devient très dur et autoritaire. Je ferme la parenthèse. On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 5. Les blessés antérieurs ne sont pas une invention. Ça y est, dans la Bible, il y a eu beaucoup de blessés dans la Bible. On va aller rapidement. Genèse chapitre 4, verset 5.
Yahvé regarda Abel et son offrande, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande.
Genèse 4, verset 5. Il faut continuer, continue.
Caïn en fut très irrité et son visage en fut abattu.
Caïn en fut très irrité et son visage en fut abattu. Pourquoi? À cause de ce que Dieu n'a pas regardé avec de manière favorable ses offrandes, il a regardé celui d'Abel. Donc Caïn était abattu. Il était fâché, en colère. Blessure est née dans son cœur. Genèse 27, verset 34 et 41. Nos frères qui sont en ligne, et j'espère qu'on est ensemble et que vous êtes connectés.
Lorsque Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un grand cri, une plainte très amère. Et il dit à son père, bénis-moi.
Reprends.
Lorsqu'Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un grand cri, une plainte très amère, et il dit à son père,
Ésaü était amer. On connaît toute l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob a usurpé le droit d'aînesse. Bon, il n'a pas usurpé. Il a acheté. Il a été intelligent. Il a été sage. Mais il a usurpé la bâtisse. Il n'a pas usurpé le droit d'aînesse. Il a fait échange entre nourriture son droit. Mais il a usurpé la bénédiction. Parce qu'il n'était pas Ésaü. Il s'est fait passer pour Ésaü. J'ai compris un jour pourquoi Jésus dit les hommes du monde sont habiles. Les religieux vont dire ça c'est un péché. Péché ou pas, elle a été bénie. Le reste c'est toi qui vois. Alléluia. Alors Ésaü qui venait prendre la bénédiction, parce que son papa lui a dit va m'envoyer ce qui me plaît, puis je vais te bénir. Il vient, c'est djinzin. Jacob est passé derrière lui. Donc quand son père lui dit je ne peux plus te bénir, parce que un père, il a une parole. La première parole qui sort, c'est la source pure. C'est comme l'huile d'olive est faite à partir de la première pression d'huile. Il dit, je ne peux rien donner. Il a eu en boule. Donc la Bible dit, il est devenu amer. Il est blessé à cause d'un événement qui a eu lieu. Et on va voir peut-être la conséquence de ça sur lui. Le verset 41, rapidement.
Ésaü conçut de la haine contre Jacob.
Il va concevoir de la haine contre son petit frère Jacob.
À cause de la bénédiction que son père lui avait donnée.
Donc il a résolu de tuer Jacob. Alléluia. Juges chapitre 11, verset 1 à 7. L'histoire de Jephthé. On voit ce que Jephthé va dire aux géants, aux grands d'Israël. On écoute la parole aussi. Juges chapitre 11, verset 1 à 7.
Juges chapitre 11, verset 1 à 7. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une courtisante. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des fils et des fils de cette femme grandit et chassait Jephthé en lui disant.
Ils ont chassé Jephthé.
Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Pendant que les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allaient chercher Jephthé au pays de Tob.
Qu'est-ce que Jephthé va leur dire?
Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre général et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé dit aux anciens de Galate, Ne m'avez-vous pas haï, et chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse?
Israël, ils ont chassé Jephthé de sa tribu. Et voici un problème. On sait que Jephthé, c'est un grand guerrier. Il peut aider au combat. On va le chercher. Jephthé, étant blessé, il avait de la haine dans son cœur. Il leur dit, ne m'avez-vous pas chassé? Il est blessé. Et pour venir aider son peuple, il va poser une condition. Et il va faire un vœu à Dieu. Tellement il voulait prouver que ils ont eu tort de le chasser. Et cela va lui porter préjudice. Parce qu'il va dire, Seigneur, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sort de ma maison, je te l'offre en sacrifice. Jephthé va, il remporte la victoire. La première personne qui sort, c'est sa fille unique. Or, en Israël, chez les Juifs, quand tu fais un vœu à Dieu, il faut l'honorer. Et Jephthé va dire, ma fille, pourquoi mets-tu autant de douleur dans mon cœur? Bien-aimé, si Jephthé n'avait pas cette souffrance émotionnelle qu'il n'a pas digérée, parce qu'il a été chassé, il n'allait pas faire un tel vœu. Parce que ce vœu qui paraît être bon pour remporter la victoire, en fait, n'était que la manifestation de la blessure qu'il avait. Combien de choix nous avons fait par ego? Combien de choix nous avons fait parce qu'on a voulu prouver quelque chose? J'ai rencontré une jeune fille à l'écoute, je crois il y a un an, c'était en 2021, et j'étais tellement sidéré. J'ai dit, mais comment on peut aller jusqu'à là? Elle était dans une entreprise où elle était payée pratiquement 900 000, 950 000 par mois. Parce que elle a commencé après à avoir une relation avec le DG. Après se rendre compte, bon, sa relation n'a rien à voir avec le salaire. Son salaire, c'est dû à son travail. Mais après, on l'a envoyé au travail, c'est envoyé. Elle a appris après qu'il y avait une autre de ses collègues qui courtisait le DG. Et la fille a commencé à la narguer. La fille s'est rendue compte de ce qu'il y a entre elle et le DG. Elle a commencé à exposer. Et tout simplement, pour prouver à la fille qu'elle, elle s'en fout, elle dit qu'elle va démissionner. Et elle a démissionné. Maintenant, pour avoir travail, voilà le problème. Elle se retrouve en train de chercher tous les liens de sa famille pour briser. Et je ne dirais pas si elle a frappé, on l'a envoyé à la bonne porte ou bien à la mauvaise porte. Si elle est arrivée chez moi. C'est bien beau d'accuser les gens. Non, moi, en guillemets, je ne sais pas si j'aime les démons ou pas. C'est que si j'aime les chasser. Donc j'aime quand on parle d'eux. J'aime quand on est face à eux. Donc sûrement on lui a dit, elle est venue, il a dit, ma chérie, il n'y a pas de problème, mais explique-moi ton affaire. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Elle a tourné autour du pot. Il a donné cheminement. On chemine. Il dit, Joe, moi Dieu est pris là, on ne peut pas cheminer. Toi, depuis on prie, tu ne vois rien. Tu ne fais pas songe. Tu ne sens rien. Tu manques quelque part. Mais il dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? C'est là qu'il va me raconter l'histoire. Puis il a regardé. T'as dit, je me suis fatigué à jeûner pour toi, à prier avec toi. Tiens, c'est ta bêteté qui t'a amené dans une telle situation. Ton ego. Le gars, il est marié. De la manière tu as vu que c'est un bon pain. Elle aussi, elle a vu que c'est un bon pain. Mais pain, quand c'est un pain, on peut partager. Puis c'est même pas votre pain, vous deux. Et si tu es parti, sachant que tu es chrétien dans ça, c'est que c'est sûr que le pain est croustillant. Qui ici parle à la boulangerie, voit un pain mort, puis un pain croustillant, puis apprend le pain mort. De la manière toi tu aimes bonne chose, elle aussi elle aime bonne chose. C'est toi qui as cru que tu as laissé ton travail. Voilà toi maintenant, tu fais prier partout. Elle dit, ma chérie, il faut demander pardon à Dieu parce que tu es bête. Non. Bon, moi, excusez-moi, moi, ça là, c'est moi, je t'ai dit. Il ne faut pas en vendre tout au-dessus du pot. Parce que souvent les gens donnent l'impression que Jésus est impuissant. Moi, je refuse. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Repends-toi. Puis cherche travail encore. Parce que là, tu subis juste les conséquences de ce que tu as vécu. Mais derrière ça, il faut que tu guérisses. Parce que je sais que cette fille-là, tu lui en veux. Elle dit, monsieur, si elle la croise. Elle dit, d'accord. Voilà, croisé. C'est que c'est toi qui chômais, travaille toujours. Puis peut-être même en train de boire ton pain matin. Comme elle dit. Alléluia. Mais vous voyez que. Bon, ça, mais ça, c'est pas une blessure intelligente même. Tu ne devais même pas être blessé. Quel jour même vous faites. Et que vous de vous voler. Et puis toi, tiens. Mais voici une situation qui l'a amené à prendre une mauvaise décision, comme Jephté. Et aujourd'hui, beaucoup des situations qu'on vit au quotidien sont le plus souvent la somme de mauvais choix qu'on fait. Mais d'où viennent ces mauvais choix? Pourquoi nous sommes tant conditionnés à faire des choix ainsi? Et souvent, on est conscient que le choix qu'on est en train de faire, ça ne nous arrange pas. C'est pas bon. Mais on dit, c'est qui est sur moi là? Il veut faire. Souvent même, là, Dieu permet que des personnes nous parlent. Mais on dit non. Parce que tout simplement, on veut satisfaire nos émotions et notre égoïsme intérieur. On a vu Caïn. Dieu a dit à Caïn, on a lu le texte, le péché est tapis à ta porte, tu peux marcher dessus. Genèse chapitre 4 par la suite, ils sont fous, il a tué Abel. Avant de tuer Abel, Dieu l'a prévenu que ce qui est dans ton cœur n'est pas bon. Le péché est tapis à ta porte, mais il a tué Caïn et Abel. Celui qui a su revenir, c'est Ésaü. Il avait en projet de tuer son frère, mais quand ils se sont croisés, il a laissé tomber son projet. Est-ce que toi tu veux être Ésaü? C'est vrai qu'on présente Ésaü sur un mauvais visage, mais quand tu lis la parole en profondeur, tu te rends compte que le gars, il a fait de bonnes choses aussi comme ça. Parce que à cause de Jacob, il est devenu un chasseur errant pour pouvoir se nourrir. Jacob a tout le lait. Et puis lui, il ouvre sa bouche pour dire qu'il avait un bâton quand il partait. Au retour, il a eu deux camps de bien. Mais Ésaü a pardonné. Au sorti de cette retraite, quel choix tu feras? Parce que le problème, c'est que l'action de l'esprit va se passer, mais ta mémoire a déjà enregistré ce que tu as vécu. Je veux d'entrée de jeu insister sur ça. Faites la différence entre pardonner et oublier. Les gens disent que si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est faux. Tu sais pourquoi? Le pardon est lié au cœur. L'oubli est lié à la mémoire. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas la même source. Donc, l'un n'entraîne pas l'autre. Jamais. Je prends un exemple très clair. Imagine en 2002, dans la crise de la Côte d'Ivoire, aux premières heures, on a coupé ton bras. Tiens, manchot. Ça ne peut plus pousser jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après. Et tu rencontres et tu reconnais celui qui a fait cela. Bien-aimé, qu'est-ce qui va être dans ton cœur? Ça, mais c'est encore plus dur. Chaque fois que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas faire quelque chose avec le bras qui est coupé, tu vas te souvenir. Mais est-ce à dire que tu ne pourras jamais pardonner? Hein? Non, tu vas pardonner, mais le souvenir va être là. Imagine quelqu'un qui t'a donné un gourmet sévère. On dit c'est deux montagnes qui ne se croisent pas. Forcer un jour de croiser dans Abidjan. Quand tu ne le vois pas, le souvenir peut ne pas être là, mais s'enfuit. Mais le jour où tu le vois, tout renaît, renaissance. Mais est-ce à dire que tu n'as pas pardonné? Est-ce à dire que tu ne peux jamais pardonner? Donc ne liez pas le pardon à l'oubli. Non. Ce que tu as vécu sera toujours là. Mais quel choix tu vas faire? En voyant Jacob, Ésaü n'a pas oublié ce que Jacob a fait, mais il a décidé de pardonner. Je veux d'entrée de jeu nous mettre devant ce grand défi de la guérison intérieure. Parce que Jésus le fait. Mais la deuxième chose, c'est notre responsabilité. Quand j'étais assis au Saint-Sacrement, que Jésus m'a expliqué la situation et il m'a dit, lâche prise, laisse tomber. J'ai laissé tomber. C'est fini. C'est ma responsabilité d'accepter. Vous savez, le plus dur, c'est que les gens refoulent leur histoire. On refuse ça. Je dis que tu vas toujours souffrir tant que tu ne te réconcilies pas avec. C'est ton histoire. J'aime bien les dessins animés. Qui a regardé Kung Fu Panda? quel moment il a pu déployer sa puissance? Si vous avez bien regardé, il y a eu un, il y a eu deux, il y a eu trois. À quel moment il a pu déployer sa puissance pour combattre? Quand il s'est réconcilié avec son passé, avec ses souffrances, c'est son histoire, il a accepté. La preuve, quand il combattait, il a eu le flashback, un rappel de son histoire douloureux, du rejet qu'il a vécu. Mais ça a été une force pour lui pour remporter la victoire. Le tout, c'est que c'est ton histoire. Mais au sortir d'ici, qu'est-ce que tu feras avec cette histoire? Elle ne changera pas. Elle est déjà écrite. Même si tu fermes le livre de cette histoire, elle a existé. Pas parce que tu ne lis plus le livre de Siem que ce livre de Siem n'existe plus. Vous êtes d'accord? La preuve, tu sais qu'il y a Mariam joue à la balle dedans. Mais tu ne lis plus Mariam joue à la balle. Tu sais que c'est la jolie moto des papas. Mais tu ne lis plus ça. Mais ça existe. C'est ton histoire. Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? La blessure intérieure, ce sont des situations de manque vécu, des chocs, des troubles qui affectent notre être intérieur et provoquent des traumatismes ou des crises émotionnelles. Les blessures intérieures sont des souffrances émotionnelles qui sont liées à notre vie. Bon, je parlais, tu notes ce que tu veux noter. Hein? Des situations de manque vécu, des chocs, des troubles qui affectent notre être intérieur et provoquent des blessures, des traumatismes, des crises émotionnelles. Ce sont des souffrances émotionnelles lié à notre vie. C'est différent de la blessure physique. On parle de blessure intérieure parce qu'elle touche à notre âme, à notre être intérieur. Et nous sommes d'accord que la souffrance émotionnelle fait plus mal que la souffrance physique. Or, le grand danger, c'est quoi? L'homme est corps, âme et esprit. Mais l'homme régénéré par le Saint-Esprit est esprit, âme et corps. Le corps a une fonction de récepteur et de réacteur. Le corps, il reçoit les informations du monde extérieur et il le transmet par les cinq sens de l'homme au monde intérieur. Par exemple, quand on te parle, ça te fait mal. C'est parce qu'un de tes sens a reçu une information par l'oreille, n'est-ce pas? Et ça a transité pour aller se loger dans ton cœur. Mais ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'en l'être, il y a deux fonctions qui traitent les informations que nous recevons. Il y a l'amygdale et le cortex. L'un se loge dans la mémoire, l'autre est dans la porte de ces deux sens qu'on a, notre cœur et notre mémoire. Donc, soit ça reste dans ta tête, ça ne descend pas dans ton cœur, soit tu laisses descendre et puis c'est jinzé. Quand on t'envoie une information, tu peux la recevoir sans l'accueillir. La réaction que tu as après dépend de ce que tu as fait. Tu l'as reçu, est-ce que tu l'as accueilli? C'est là qu'on comprend que pourquoi on peut entendre la même chose de deux personnes différentes, mais avoir des réactions différentes. Ça dépend de comment tu l'as reçu, de comment tu l'as accueilli. Donc, notre corps n'est que à la vérité au répondant du monde extérieur, mais aussi du monde intérieur. Parce que quand il a reçu et que l'information a fait son parcours et son processus, le corps va réagir en fonction de ce que tu as fait intérieurement avec ça. C'est pourquoi l'une des plus grandes choses, c'est d'avoir un vigile sur son cœur. Oui, tu dois avoir un vigile et un tamis qui fait tout ce que tu reçois. Tu as beau être bon. Souvent, je ne sais pas comment nous les chrétiens on lit la Bible. Jésus a dit, je vous envoie comme quoi? Des brebis au milieu de qui? Lula, il joue à toi. Donc quand on est là, on dit non, les gens sont méchants, et la vie là, c'est quoi qui est nouveau? Jésus a dit, en fait, le problème c'est que si tu n'es pas au milieu des loups, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir la parole de Dieu. Dis amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Donc si je pense qu'au travail, il y a trop de loups autour de moi, en famille, mon mari même c'est un loup, oh Seigneur, je suis dans ton plan. Aïe. La Bible là, apparemment on la lit pour nous plaire. Il dit, je vous envoie comme des brebis, moutons. Tu connais un mouton? Parce que mouton est bête. Donc est-ce que Jésus lui-même, prophétiquement, prophétiquement, il nous annonce que la meilleure manière de vivre parmi les loups, c'est d'être bête. Remarquez, quand tu es trop intelligent, tu souffres. Mais quand tu vois, tu les gens, eux, chaque chose, ils attrapent. Puis ils font mathématiques dessus. Ensemble de définitions, ils calculent les limites, asymptotes, ils trouvent la dérivée. Tout. Et qu'ils tracent coup. Puis le cœur gros comme ça, tu vois. Puis quand ils t'expliquent la chose, my God. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils ont déjà fait l'analyse de la situation. Ils ont observé. Ils ont analysé, ils ont interprété. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la tête de la personne, mais ils ont déjà défini ce que la personne pensait en disant ça. Qu'est-ce qu'il voulait atteindre? Pourquoi? Et c'est normal que tu souffres, tu n'es pas mouton. Brebis, mouton. Mouton, tu le tapes une fois, il revient. Il n'a qu'à avoir tout, un mouton tombe. S'ils sont veux, eux tous vont tomber dans tout là. Et en même temps, il nous dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc voici des choses, normalement, quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, qui doit appliquer. Mais toi, tu es au milieu de loup, tu n'es pas comme serpent. Tu n'es pas comme colombe. Toi-même, tu es lion. Loup et puis lion, si c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Niaga. Donc comprends toutes les luttes dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tête, tous les palabres. Tu as l'impression que partout on ne t'aime pas. Mais est-ce que tu es mouton? Si tu es lion, loup voit lion. Aïe, lui aussi se sent en danger. Il y a un instinct de suivi qui naît. Chacun doit s'en sortir. Or toi, tu es lion, mais jusqu'à ta tête, tu deviens mouton. Donc c'est toi qui perds le combat. Parce que là où en fait tu dois être lion jusqu'au bout, c'est là que tu te rappelles de la parole. Le Seigneur a dit, je m'envoie comme un mouton. On a commencé à te faire. Non, moi ici chrétien, c'est pas grave. Il laisse tomber. C'est grave parce qu'en fait tu es blessé. C'est ton incapacité, ta faiblesse là. Quelqu'un te dit, c'est pas grave. Pitié là, tu encaisses. Tu encaisses. Tu encaisses. Mouton là, souvent il cogne. N'est-ce pas? Il ferme la parenthèse. Alléluia. Donc le corps réagit en fonction de l'information que l'intérieur lui envoie. Donc vous voyez la réception et la réaction. L'âme. Vous savez que l'âme est l'atout de contrôle de l'homme. Mais je vais parler juste de l'esprit. L'esprit est la faculté de l'homme ou l'entité de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde invisible, le monde spirituel, qui l'ouvre à Dieu ou aux divinités. Dans l'esprit, il y a la mémoire, il y a la conscience, c'est dans l'esprit qu'on reçoit les révélations, il y a l'intelligence, il y a le souvenir, l'intellectualisme, tout ça c'est dans l'esprit. Maintenant, l'âme. C'est l'âme qui fait l'homme. C'est l'âme qui fait la personnalité de l'homme. Comment? Dans l'âme, il y a l'émotion. Il y a la pensée d'abord. L'émotion et la volonté. Proverbe dit, tel homme pense, tel homme est. Donc la pensée est le moteur de l'homme. Du coup, L'âme devient le moteur de l'homme. Un homme ne peut pas vivre sans émotion. C'est la volonté qui communique ce qu'on a conçu dans notre pensée pour le donner au corps. Quand tu veux manger, tu conçois dans ta pensée. La pensée ayant nourri et accepté ce désir, communique à tes émotions qui, eux, vont faire ressentir à ton corps le désir intérieur qui a été forgé. Et quand ton corps est au répondant, la volonté se met en mouvement. Donc on comprend que ce qui fait l'homme, c'est son âme. Pourquoi? Quand l'homme meurt, l'esprit repart à Dieu. Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Le corps est poussière, retourne à la poussière. Il reste à la terre. Il reste quoi? Il reste l'âme. C'est l'âme qui soit un, c'est l'âme qui part en jugement. Donc ton toi, c'est ton âme. C'est à tout de contrôle. C'est pourquoi les blessures intérieures sont dangereuses, parce qu'elles se logent dans l'âme. Et elles viennent obscurcir l'âme. Oh, si l'âme est obscurcie, sachant que c'est la tour de contrôle, comment elle va veiller à ce qu'il n'y ait pas de crash? Comment la tour de contrôle sera capable de nous donner des informations quand il faut pour pouvoir parer aux difficultés, aux événements? C'est pourquoi certains sont souvent, très fragilisés devant certaines situations, parce que leur tour de contrôle est biaisé. Quand ta vie, qui est comme un avion, a pris son envol devant certains objectifs, si l'avion est déconnecté de la tour de contrôle, c'est sûr que l'avion se perd. On est d'accord? L'avion fait crash. C'est pourquoi les blessures intérieures sont dangereuses. Elles viennent obscurcir notre être. Elles nous affectent à partir de certains événements qu'on vit. À partir de certaines situations qu'on vit, comme des trahisons, comme des rejets, comme des souffrances physiques. Oui, il y a par exemple quelqu'un qui subit un viol. C'est physique, mais ça a de graves incidences émotionnelles. De graves incidences dans l'âme. On est athée. Quelqu'un qui est maltraité, qui ne se sent pas aimé. Parce que l'homme a un quotient émotionnel. C'est pourquoi aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle. Parce que les gens ont compris. Quelqu'un peut être compétent. Quelqu'un peut avoir le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-innover, tout ce qu'il faut pour être efficace et efficient. Mais s'il n'a pas une bonne gestion de ses émotions, il demeure fragile et incompétent. Pourquoi? C'est pourquoi les gens, après avoir étudié, ont vu que c'est vrai qu'il y a le quotient intellectuel à prendre en compte pour faire les choses. Mais il y a le quotient social et il y a le quotient de risque. Or, ces deux types de quotients ne peuvent être stables que pour une personne qui a une bonne gestion de ses émotions. Parce que pour bien réagir devant un risque et prendre les bonnes décisions, il faut savoir se maîtriser. Pour avoir une bonne sociabilité dans un environnement hostile, il faut avoir une bonne gestion des émotions. Parce que tu auras des gens matin, quand tu arrives, tu les salues pas et tu te parles mal. Tu auras des gens quand ils se lèvent à la maison et puis ils arrivent au bureau là. C'est comment t'énerver. Comment te faire mal? Comment te faire perdre ton travail? Mais quand tu te rends compte de telle situation, comment tu réagis? Ça a déterminé ton avancement. C'est pourquoi on peut avoir de grands intellectuels, mais qui ne peuvent pas avancer. Un bon manager, c'est celui qui a une grande intelligence émotionnelle, une bonne gestion de ses émotions. Mais si ton intérieur est affecté, si ton intérieur est troublé, si tu es perturbé, la perte d'un être cher peut créer ces choses-là en nous. Des attentes qui ne sont pas résolues, des choses inachevées, des échecs à répétition, des manques. On va commencer à souffrir. Et on devient quoi? Bien-aimé, On appelle également la blessure intérieure la maladie de l'âme. C'est pourquoi je suis revenu, j'ai voulu expliquer les différentes entités de l'homme. Vous savez, on peut être un grand chrétien, on prie, on jeûne, et puis on peut avoir beaucoup de problèmes de caractère. Souvent, le problème de foi des chrétiens tire sa source, du manque de foi plutôt, tire sa source dans la maladie de leur âme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir, par exemple, Dieu comme un père. Du coup, ils ne peuvent rien demander à Dieu. Du coup, ils ont un problème dans leur relation avec Dieu. Il y a un homme de Dieu en France, Daniel Ange, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu son nom, qui a eu ce grand problème avec son papa. Et il n'a jamais accepté. Et il n'acceptait pas Dieu. Et il a fallu que Dieu se révèle un jour, l'apparaît dans sa chambre. Et toutes ses prédications, tous ces livres qu'il écrit, c'est sur Dieu le Père. Parce qu'il a expérimenté le paternalisme de Dieu pour pouvoir pardonner et accepter son papa. Il y a des chrétiens catholiques qui ont un problème avec la dévotion à Marie. Parce que quand on dit c'est une mère, ils n'ont pas connu peut-être cette question de mère. C'est quoi une mère? Donc pour eux, quand on dit mère, ils ne peuvent pas concevoir. Donc vous voyez que si notre âme est malade, même notre relation avec Dieu prend un coup. Il y a des personnes, Dieu va leur dire, je suis avec toi, fais ceci. Ils ne pourront pas, parce qu'il y a des situations dans leur vie qui ont occasionné des manques de confiance. Donc malgré que Dieu dit, va, je suis avec toi, tu vas t'en sortir, tu vas prospérer. Ils disent, non, Dieu, tu t'es trompé, ce n'est pas moi. Est-ce que vous savez que quand on lit le psaume 51, on se rend compte que David était un grand blessé? David déjà été conçu dans l'iniquité. David est né d'une relation adultérée. Son papa allait voir à côté, puis il est né. David était un rouquin. Il était court. Tous ses autres frères étaient grands, beaux. Donc chaque jour, quand Jessé voyait David, il avait le souvenir de son péché. Donc il faut éviter ce souvenir en voyant-le chaque matin derrière le mouton, jusqu'à ce qu'il rentre, je dors, je n'ai pas le voir pour me rappeler qu'un jour j'ai trompé ma femme. Il était blessé, je sais. David a subi. Mais David a su compter sur Dieu. Et il a été ce qui. Mais on va voir dans la vie de David beaucoup de colère. Dans l'histoire avec Nabal, mari de Abigaël. Dis sans tuer le gars. Hein? David, toi aussi. Quelqu'un a son champ. Il a ses biens. Il dit, tu ne donnes pas ses fruits. Parce que toi, tu dis, tu as fait un dégât. Toi, tu le tuer. Ah, c'est quelqu'un qui a fait ça. David a tout acquis par lui-même. Il a tout acquis par la force. On présente David comme un grand. Mais cette partie de sa vie, souvent, est occultée. Parce que souvent, dans la présentation de l'évangile, on présente l'eau de rose aux chrétiens. Mais on ne dit pas aux chrétiens que ses pères dans la foi ont eu aussi des carences, des difficultés, des problèmes. Mais ils ont su être des héros parce qu'ils ont laissé Dieu combler leur déficit émotionnel. David n'a pas connu sa mère. Il y a des personnes ici peut-être qui vivent dans un foyer où maman n'est plus là, papa s'est remarié. Mon gars, Mago, David a vécu ça, mais il est devenu roi. Plus l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est chacun blême. Tu pleures pourquoi depuis là? Ouais, David. Imaginez-vous que David était toute la journée derrière les moutons. On ne sait pas si à midi comment il mangeait. Si on a pu l'oublier quand Samuel est venu, ça voudrait dire que. Est-ce que. En fait, soyons réalistes. Ne spiritualisons pas les choses. Qui ici a des enfants? Combien d'enfants? Un, deux, trois. Trois. Il y a trois enfants. Quelqu'un vient. Tout le monde sait en Israël que quand le prophète sort, c'est un événement. C'est que ils ne sont pas comme ça. Et puis, ce n'est pas n'importe quel prophète. Baba Samuel. Le père
est le Père.
Samuel en Israël, Samuel incarnait les trois onctions. L'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale. Dieu a mis toute son espérance en Samuel pour gouverner son peuple. Quand Samuel sort, faut, c'est qui? Si tu le vois, tu l'as dit, ouais, Dieu a écouté ma prière. Exemple. Hein? Qui est-ce? Non, il veut dire un homme public ou bien un homme titre. Quand tu le vois, tu dis, lui, il est venu chez moi. C'est que ma vie va changer. Le fondateur, ok. Le fondateur vient chez toi. Le vieux vient. Et puis il dit, Madame Badou, je dois avoir tous tes enfants. Tu as vu que déjà tout à l'heure, tu as créé problème. On te dit qui? Tu dis Christo. Tu as trois enfants. C'est un. Ok. Il est parti, il a dit. Donc, Christ, tu appelles Christo. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Donc, tu appelles deux enfants, puis tu oublies un. Ça peut arriver. Et ça peut arriver, vrai. Les mamans, ça peut arriver. Les hommes, est-ce que toi tu peux oublier un de tes enfants? Que tu as un enfant quelque part. Voyons le côté dramatique. Samuel présente ses sept fils. Il oublie, et je sais, il oublie David. Puis c'est qui est méchant? David dit, tu es sûr que ça veut dire quoi? Donc, si on peut l'oublier à un tel niveau, devant le grand Samuel, ce grand événement, est-ce qu'on peut se souvenir tous les jours qu'il doit manger à midi au champ? Est-ce que quelqu'un me comprend là où je veux aller? Parce que c'est beau de pleurer. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Voilà son histoire. C'est que soit il ne mangeait pas à midi. Tous ses frères faisaient, on leur donnait les bonnes tâches. Quand on a dit on veut des hommes pour aller à la guerre, c'est eux on a pris. Lui, on ne comptait pas sur lui. Mais c'est lui qui surveillait les moutons pour qu'il y ait de l'argent à la maison. Puisque la richesse de son père, c'était le bétail. Mais on ne se souvenait pas de lui. Sa maman n'était pas à la maison. Son papa a oublié qu'il a fait enfant avec une femme. Il a oublié sa maman. Lui-même, on l'a oublié. Ça là, qu'est-ce que ça peut faire dans ton cœur? Ça, c'est pas blessure. Morsure, déchirure. Voilà ce que David a pu vivre. Il était troublé dans son âme. Mais je ne sais pas d'où tirait sa force, mais il surveillait les brebis. Quand même les lions venaient, les loups venaient, il les combattait. Regardez, même ses frères ne l'aimaient pas. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, ton petit frère vous a envoyé manger. Il pense avoir envoyé que lui-même est David. Il va surveiller le mouton. Il va envoyer manger la corvée. Il va marcher le petit là. Pourquoi il n'a pas grandi? Parce qu'il va charger. Il va charger les affaires. David arrive. Lui aussi, il aurait aimé participer pour le bien de sa nation. Il aurait voulu aussi être là où tout le monde est. Il est toujours à part. Il dit, grand frère, on dit quoi? Ah, le grand frère, Eliab. Faut lui parler doucement, mon petit. Ça là, toi, t'as tu aimes ça. Faut quitter là. Tu as vu donner manger, va derrière tes moutons. On lui rappelle qu'il n'est rien. L'une des premières personnes bibliques qui m'a éduqué, c'est David. Oui, mon fou, hein, c'est un fou. Il a laissé son frère. Il a dit, on dit quoi ici? Non! Il dit, on dit quoi ici? Il a laissé Eliab. Il s'en fout de son frère, de ce que son frère a dit. Il dit, on dit quoi? On lui a dit, mon gars, il y a femme en jeu. David sait qu'aucun homme ayant odeur de mouton, femme va le regarder. Toi-même, tu es là. Même si le Seigneur te dit que le frère qui est là, et puis il vient, il sent au dos de mouton. Tu fais comment? Le Seigneur t'a dit, est-ce que le Seigneur m'a parlé vrai? David sait qu'aucune femme ne va le voir. Et puis il entend que c'est la femme du roi, la fille du roi. Il dit, hey, mon œil a sonné. Si c'était toi, tu as dit, hey, moi c'est mon temps, connais où? Toi, il est parti. Est-ce que moi je peux m'accepter? Ce n'est pas son problème. Bien-aimé, je veux d'entrée de jeu dire à quelqu'un que tu peux être un héros malgré ton histoire. Vous savez, en Israël, Saül n'a jamais existé. Est-ce que vous savez ça? Il a vécu, il a été roi. Mais beaucoup de juifs ne connaissent pas l'existence de Saül. Même l'étoile que vous voyez dans le drapeau d'Israël, on appelle ça l'étoile de David. En Israël, la tombe de David est là. Et chaque jour, il y a un rabbin devant qui prie du matin au soir. Ça ne doit jamais rester vide. Parce que c'est lui qu'on reconnaît comme roi d'Israël. Les autres là, c'est à peu près. Mais c'est le gars là. Regardez ce qu'il a vécu. Dis à quelqu'un, j'ai le choix. J'ai le choix. C'est une maladie de l'âme qui peut te détruire. Bien-aimé, on ne doit pas négliger les blessures intérieures parce que ce qui détruit l'âme peut finir par détruire le corps. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pourquoi quand tu passes ton temps à emmagasiner des choses, plusieurs personnes souffrent à cause de certaines cicatrices sur leur âme. Tu as des maladies qui ne finissent jamais à cause de certaines cicatrices sur ton âme. Certains ici ont gardé beaucoup de souvenirs douloureux qui en fait déterminent leur existence. L'une des choses dont j'ai le plus peur, c'est lorsque les hommes ou les femmes ne font pas des choix ou ne prennent pas des décisions en fonction de leur objectif de vie, mais pour combler leurs blessures. Beaucoup de choix que les gens font, même le choix de leur partenaire, c'est en conséquence de leurs blessures. Vous allez voir que certaines femmes, moi je veux un homme qui est toujours là pour moi, voilà, parce qu'il y a une blessure d'abandon quelque part ou de rejet dont elle cherche à combler. Est-ce que ça là, ça t'aide dans ton objectif de vie? Mais parce que tu n'es pas guéri ou parce que tu refuses de guérir, tu cherches une compensation. Vous savez, on ne compense pas ça là. Ça ressurgit demain. Ça va te rattraper. Et quand ça te rattrape, ça met mal à tout. Parce que tu auras l'impression que ta relation, ton foyer n'a plus de sens. Ou le jour même que tu es guéri, tu ne verras plus l'importance de cette personne. Puisqu'il comblait un vide. Le vide est comblé autrement par Jésus. Donc il devient... C'est là où vous allez voir que certaines femmes qui sont mariées et ont un engagement sans précédent dans l'œuvre de Dieu. Il faut checker. Soit des parents, il faut laisser. Moi là, c'est le Seigneur ou rien. Marie là, mais c'est que Dieu d'abord, ma chérie. Ma qu'à bien fouiller. Si c'est l'amour du Seigneur qui te conduit comme ça, ou bien si c'est parce que tu as trouvé un refuge. Comme Jésus a comblé, il est devenu ton mari. Mais comment donc du coup ton mari, même que Dieu même il t'a donné là, il devient un opposant à l'œuvre de Dieu parce que toi tu as un problème. C'était se sentir en prison à cause des blessures intérieures. Ça ne doit pas être négligé parce que c'est capable de t'aveugler. Ça donne une, j'ai dit quoi, il y a la pensée, l'émotion et la volonté. Oh, c'est vrai que les gens aiment dire on ne vit pas dans les émotions. Et souvent, quand les gens parlent, ça donne l'impression qu'il ne faut pas avoir d'émotions. C'est faux. On ne peut pas être humain sans émotions. Mais se laisser conduire par ses émotions, c'est dangereux. Il faut les manager, il faut les gérer. Mais comme certains ont une cécité dans leur âme, ils ne peuvent pas gérer leurs émotions. Ils sont emportés par tout vent. ils ne doivent pas être négligés parce que quand ton âme est blessée, il y a un doute du présent et une crainte de l'avenir. Tu ne vois rien devant. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu ne vois rien. Oh, il y a quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses avec lesquelles on ne doit pas. J'ai pris le temps pour qu'on comprenne réellement cette réalité de blessure intérieure-là. Quelqu'un qui vit une séparation douloureuse, qui perd un être cher, ça peut faire naître des blessures.